vôtre.
Ah, monsieur pourrait prendre un petit muscadet. C'est sec ou c'est doux?
Plutôt sec.
Je préférerais plutôt doux.
Alors, sauterne.
C'est doux?
Ah, c'est très doux.
C'est pas trop doux?
Ah, si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec?
Non, je préférerais un demi-doux.
Oui, je pense qu'on peut dire que le vin, c'est artistique. Qui peut évaluer une œuvre d'art? Quelle machine dans laquelle on déposerait une goutte de vin va te dire est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, est-ce qu'il vient du nord, est-ce qu'il vient du sud, est-ce qu'il est plein d'intrants, est-ce qu'il est cher? Donc ça reste à l'appréciation de chacun.
On part en voyage sur la planète vin. À la bonne vôtre est un podcast qui parle de tout ce qui touche à la vigne et au vin, au fil des émissions et des invités. Pour animer cette émission, nous sommes trois. Moi, je vais me présenter. Je m'appelle Sébastien Almendros. Je suis vigneron au domaine de la Tucaine dans le sud-ouest et œnologue de formation et amoureux des vins. Voilà un petit peu l'idée. Donc, nous sommes trois dans l'équipe, je l'ai déjà dit. Je passe la parole à Pierre pour te présenter.
Oui, alors je suis Pierre Astier. Je suis amoureux du vin, moi aussi, et en même temps amateur. Et amateur au double sens du terme. Hein. Voilà.
Jean-Luc Palévody, ben moi aussi, je suis un amoureux du vin. Et aussi d'une belle rencontre avec Sébastien et Pierre qui m'ont permis de progresser dans la connaissance du vin. Et j'espère qu'avec cette émission, on pourra également vous donner envie.
Magnifique. Donc, c'est la première émission numéro 1. On arrive à la faire celle-là. Hein. C'est beau. Donc, la thématique de cette émission, pour démarrer un petit peu l'immersion dans cette planète vin, on va parler de la notion de cépage. Donc, qu'est-ce qu'un cépage? On en entend beaucoup parler, c'est souvent indiqué sur le dos des étiquettes de vin. Donc, même s'il existe une centaine de variétés au sein de la famille Vitis vinifera, seuls quelques-uns, une trentaine en fait, dans le vignoble hexagonal, sont fréquemment cultivés. Le cépage, c'est la variété. Et chaque variété est unique. On peut les distinguer de différentes façons. Donc il y a des critères ampélographiques, un mot relativement compliqué pour étudier la forme des feuilles, l'écartement des rameaux, la forme des grappes, tout ce qui est lié en fait à la plante. Il y a aussi des caractéristiques agronomiques très importantes. On va parler de précocité, de récolte. On va parler de sensibilité aux maladies, aux gelées. L'année dernière nous montre encore combien ce critère est important. Et bien sûr, on va citer les caractéristiques œnologiques, ce qui nous intéresse le plus, ce qui va directement influencer la qualité des vins, de par la couleur que tel ou tel cépage peut conférer au vin, la structure, les arômes. On reconnaît vite, par exemple, un Gewürztraminer alsacien, par les arômes qu'il confère au vin, un petit peu comme toutes ces familles muscatées. On parlait de couleurs tout à l'heure. Le pinot noir, lui, va influencer le vin par une robe rouge pâle. Et à contrario, le Malbec, le Tanat, pour une couleur noire très soutenue. Bref, chaque région a historiquement cultivé une ou plusieurs variétés de raisins au fil du temps. Localement, ici, on peut citer la négrette, du côté de Fronton. Ce soir, on va zoomer sur le prunelard du côté de Gaillac, une des anciennes variétés que Pierre et Jean-Luc nous présenteront. On va zoomer dessus dans cette émission. Et je dirais, pour terminer l'introduction du thème, un petit peu comme tout, en fait, comme beaucoup de choses, les cépages suivent ou subissent différentes modes. On a vu que par des considérations de production, de rendement, qui animait un petit peu les motivations il y a une quinzaine, une vingtaine d'années en arrière. Maintenant, on n'est plus sur des notions de concentration, de qualité, voire même peut-être dans le futur de taux de sucre et donc de degrés plus faibles. En fait, chaque période a ses critères et les cépages suivent un petit peu ces tendances, sachant que pour cultiver un cépage, il faut le planter et au minimum attendre 3 ans avant d'avoir les premiers raisins. Donc le cépage cristallise un petit peu sa situation géographique, sa situation économique, son contexte historique. Et c'est passionnant en fait de suivre un petit peu ces cépages au fil des régions, en France, dans la vieille Europe, dans le Nouveau Monde. C'est ce qui va caractériser les vins. Donc je vous propose une petite pause musicale maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet. On y va avec Dave Brubeck, le morceau Take Five. Donc maintenant, je passe la parole à Pierre qui va nous présenter un domaine où il s'est rendu avec une visite et un vigneron passionnant et son point de vue sur les cépages. J'aimerais l'entendre aussi.
Oui, pour revenir un petit peu sur la présentation qu'a fait Sébastien des cépages, je voudrais qu'il nous parle un petit peu de la notion des vins monocépages. Et la particularité un petit peu des vins français qui sont la plupart du temps présentés en termes d'assemblage de cépages.
C'est vrai qu'il y a, il y a certaines régions comme, on peut citer la Bourgogne en fait, qui elle, en rouge, la Bourgogne des grands crus, en fait, qui a un cépage blanc, un cépage rouge, le chardonnay en blanc, le pinot noir. Et mis à part cette exception, nombre d'appellations françaises sont constituées d'assemblages. On n'écrit même plus le nom des cépages sur les bouteilles. On revendique un nom d'appellation. Et sous-entendu, le consommateur sait dedans ce qu'il va retrouver. Par différence avec beaucoup de pays du... On va les classer rapidement dans le Nouveau Monde, où là, il y a cette notion de monocépage, des vins issus spécifiquement d'un cépage, d'une variété de raisin. Et du coup, on peut aller chercher des caractéristiques variétales, ce que le cépage va conférer au vin, en jouant aussi sur tout l'aspect terroir, donc sol, climat. Jean-Luc ?
Oui, par rapport à ce que tu viens de dire, Sébastien, sur le plan international, un des vins qui est le plus connu, je dirais, c'est, on va dire, les vins de Bordeaux. Hein? Et est-ce que, pourquoi, justement, dans le monde, cette notion de vin de Bordeaux a tant de succès, alors que, d'après ce que je viens de comprendre, tu viens d'expliquer, le vin de Bordeaux, c'est pas du monocépage.
Alors ouais, dans la grande famille des vins bordelais, faut savoir que le Bordeaux, c'est une grande entité en termes de surface. Il y a énormément d'appellations, de terroirs. Et je dirais que la notion de notoriété mondiale que tu abordes, elle est liée à des cépages, mais pas que. Il y a la présence, en fait, de l'essor maritime de la marine marchande anglaise, qui a énormément participé à l'essor des vins bordelais dans la plupart des cours d'Europe très très tôt. La notoriété d'un vin s'acquiert avec nombre de facteurs. La qualité d'un vin dépend, on parle aujourd'hui du cépage, mais c'est pas si simple. L'idée de ce podcast, en fait, aujourd'hui, c'est d'avoir le temps de parler en amenant des clés. Et souvent, on va voir que c'est pas si simple que ça. Mais au fil des émissions, on empile plusieurs pierres et le mur commence à monter et tiendra bien. Voilà, c'est ça humblement l'idée. Donc Pierre, vous avez fait une magnifique visite dans un domaine pas loin d'ici. Je vous laisse la parole pour nous présenter ça.
Oui, avec Jean-Luc, on a été... visiter le domaine de la Barthe, hein, qui est dans le Gaillacois, près d'un village qui s'appelle Castanet, mais c'est le Castanet du Gaillacois, où on a rencontré le propriétaire, un petit peu celui qui a développé beaucoup le domaine de la Barthe. Avant de laisser la place à ses descendants, c'est-à-dire à monsieur Jean Albert, qui a bien voulu nous recevoir et parler assez longuement de son domaine qu'il porte vraiment dans son cœur. Voilà.
Bon, alors on est dans le cadre de l'émission de la radio Esprit Occitanie, de l'émission intitulée « À la bonne vôtre », qui est une émission qui va tourner autour du vin dans ses multiples composantes. Donc aujourd'hui, avec Jean-Luc Palévaudy, nous sommes au domaine de la Barthe, qui est un domaine situé dans le Gaillacois, près de la commune de Castanet, qui n'a rien à voir avec le Castanet de Toulouse, c'est le Castanet du Gaillacois. Et nous sommes dans ce domaine avec M. Jean Albert, qui est un des patrons du domaine, même s'il a passé la main, il va nous l'expliquer, s'il a passé la main à la suite de sa famille pour continuer à exploiter ce domaine.
Voilà. Bonjour Monsieur Albert et merci de nous recevoir.
Bonjour. Donc dans un premier temps, on va lui demander de faire un petit peu d'histoire sur le domaine de la Barthe.
Oui, le domaine de la Barthe est un domaine familial qui est dans la famille depuis officiellement 1550 et qui est resté de père en fils depuis. Le domaine est passé par divers stades. On a eu en 1956, par exemple, de fortes gelées qui ont détruit le vignoble. En 1957, j'étais contraint d'aller faire mes 28 mois d'armée dans une partie en Algérie, et quand je suis revenu, les vignes étaient mortes du gel, il a fallu les arracher, donc le vignoble était complètement détruit. De plus, on avait fait, ma sœur et moi-même, nous sommes mariés cette année-là, et on a fait le partage, donc on s'est retrouvés avec un potentiel à la barre de 6 hectares de vignes qui étaient en très mauvais état, et il a fallu tout reconstruire. La vigne, pour trouver un petit peu de revenus, il faut compter 5 ans, du moment où on la plante. Donc, entre-temps, on a été obligé de créer un troupeau de brebis pour avoir un peu d'argent frais qui nous a permis de planter de la vigne et de recommencer. Bon, heureusement, mon épouse était quelqu'un de très actif et donc on s'est mis au travail et on a replanté de la vigne. Et donc on est arrivé, au bout d'un certain temps, à avoir quand même une certaine autonomie. Mon père avait déjà commencé à faire un peu de bouteilles, donc on a continué dans cette voie-là. Étant donné qu'il y avait peu de vin à vendre, il fallait le vendre convenablement. Donc on est parti dans cette voie-là, à cette époque-là.
Et vous avez replanté les mêmes cépages que ceux qu'il y avait avant ?
Alors, non, bien sûr. On a essayé de planter des cépages typiquement gaillacois, parce que ça, c'est encore une autre histoire. Bon, le vignoble de Gaillac, à l'origine, était un vignoble blanc. Il a eu l'appellation contrôlée en 1938 en blanc, mais on n'avait pas l'appellation contrôlée rouge. Et on a eu une opportunité en 72 de pouvoir avoir l'accès à l'appellation contrôlée rouge, mais on n'avait pas l'encépagement qui était correct. Donc il a fallu chercher ce qu'il fallait faire. Il y avait les cépages anciens qui n'existaient pratiquement plus. On est allé chercher à droite à gauche, notamment en Beaujolais, voir les gamets, ce que ça donnait, parce que ça correspondait un peu à notre type de viticulture. C'était des vignes en gobelets. On n'avait pas encore des vignes sur fil. C'était un cépage qui était assez facile à produire. Et en plus, le Beaujolais à cette époque-là avait des vins en poupe, et bon, ça marchait très bien. Donc on est parti un peu là-dessus. On a replanté au début un peu de gamay. On s'est vite aperçu que le gamay, c'était un cépage qui convenait très bien à faire des vins primeurs. Mais par contre, qui ne donnait pas grand-chose au niveau pour avoir un vin beaucoup plus typique.
Oui, voilà. Vous perdiez la typicité du Gaillac.
On perdait la typicité du Gaillac. Oui. Donc, on a planté des brocols, des duras. C'était des cépages qui étaient typiquement gaillacois. Ça ne s'est pas fait très facilement parce qu'il y a eu des gens qui voulaient qu'on ait tous les cépages, mais il fallait à tout prix resserrer et repartir sur des cépages typiques.
Ouais.
Le gamay nous a quand même rendu service parce que, dans ce même temps, le Beaujolais a fait un concours des vins primeurs et il s'est trouvé que sur les 10 années du concours, Gaillac a été 5 fois premier. Nous l'avons été la première fois, c'était en 88. On a été premier primeur de France. On l'a été à nouveau à la Barthe en 90 et en 96, je crois.
Donc on a les premières lettres de noblesse de,
voilà. Et donc,
du domaine de la Barthe.
Je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu deux autres producteurs qui ont été aussi premier primeur de France dans les 10 ans. Je ne sais pas pourquoi le concours s'est arrêté. Bon, mais
Parce qu'il était organisé par le Beaujolais.
Oui, mais peut-être, je ne sais pas. Bon. Mais par contre, ça nous a bien rendu service parce que ça a donné un éclairage sur le gaillacois intéressant, ça fait parler de nous, et ça nous a permis de faire venir des gens pour s'apercevoir qu'on faisait autre chose. On a même, moi à l'époque, j'avais même du bœuf qui m'a téléphoné.
Donc, le pape du Beaujolais.
Le pape du Beaujolais. Mmh. On a fait un échange de vin, d'ailleurs, à l'époque et tout, donc c'était quand même bien. La presse en a parlé au niveau national, la télévision aussi. C'était inespéré au point de vue communication. Voilà, donc ça a été intéressant à ce niveau-là.
Pourquoi
Pour relancer un petit peu le...
Eh bien, ça nous a permis de profiter de ça pour faire reconnaître les autres vins,
voilà,
beaucoup plus typiques de Gaïa.
Voilà. Comme quoi, là, déjà à cette époque-là, parce qu'on parle quand même de quelques années en arrière, l'aspect de la communication dans... justement, la promotion de votre domaine était déjà très importante.
Oui, ben, on essayait, mais bon, le problème, c'est que si on n'avait pas eu ces opportunités d'avoir l'appellation rouge de maître des gamets et d'avoir ces prix, on n'aurait certainement pas pu faire ce qu'on a pu faire par la suite. Mmh. C'est vrai que ça nous a ouvert des portes et,
oui. Qui n'existaient pas du temps de ton père. Hein.
Donc, il a fallu... Au niveau syndical, il a fallu être assez, j'allais dire, sévère pour respecter ces cépages-là, pour avoir notre typicité gaillac. Donc on était parti sur des cépages qui existaient, mais peu, donc on a multiplié ces cépages.
Vous avez développé.
On a développé ces cépages-là.
Et là, tu parles que du rouge.
Et oui, mais le blanc, on l'avait déjà. Le blanc, c'était...
C'était acquis.
Le blanc, c'était acquis. On n'avait pas de problème avec le blanc. On avait le Mozart qui est un cépage, le cépage typique du Gaillacois, et on a fait quelques essais avec des Sauvignons. On s'est rendu compte que ça ne correspondait pas trop à ce qu'on faisait. Donc il y a le Mozart et le Loin de l'œil et un peu de Muscadelle qui vont très bien pour la typicité des blancs.
Ah ouais.
Il n'y a aucun souci.
Mais qui avait disparu aussi avec la gelée.
Non, là, ils n'avaient pas dit le blanc, mais ça avait disparu. Les vignes étaient plus ou moins mortes, mais on avait quand même... il y avait des vignes pour pouvoir replanter, ça, pour redémarrer, il n'y avait pas de problème. En rouge, c'était plus difficile, parce qu'il fallait chercher les vignes où on avait des brocoles, où on avait des duraz, etc. Et après, bon, beaucoup plus tard, il y avait un cépage dont il était fortement question sur la Bible du Gaillacois, c'est le Riol. C'était le Brunelard. On parlait du Brunelard. Le Riol disait que c'était un cépage qui était superbe, qui avait fait la notoriété du Gaillacois dans les pays nordiques, etc. Mais on n'en avait pas. Il se trouve que c'est Robert Plajol qui a su qu'il y avait quelques souches dans une vigne d'un de ses voisins, de M. Gasquet à l'époque. Et avant que M. Gasquet arrache cette vigne, il est allé prendre des greffons de ces vignes-là et il les a replantés chez lui. Bon, Plajol s'est toujours intéressé aux cépages, donc il savait reconnaître tel ou tel cépage sans problème. Voilà, donc, il a fait du vin avec cette première vigne. Et il y a une petite anecdote qui est assez marrante. Je tenais un salon rue Saint-Dominique à Paris. Robert Plajol tenait un salon sur la péniche, sur la Seine. Et le soir, je suis passé le prendre pour aller manger au restaurant. Quand j'arrive, il me tend un verre et il me dit « Tiens, goûte ». Je goûte, ça aurait pu être n'importe quel cépage de France. Hein. Je lui dis, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est super bon. Et bien, il me dit, c'est le Brunelard. Et je lui dis, bravo.
Tu l'as redécouvert à ce moment-là.
Moi, je l'ai découvert sur la péniche à Paris. Et c'est vrai que c'est un cépage qui m'a marqué, parce que c'est très particulier. Ça a beaucoup de caractère, de corps, etc. Et donc, on y a cru, puisque nous, actuellement, je crois qu'on en a planté 7 hectares. Hein. Donc, on croit vraiment en ce cépage. Et c'est vrai que ce cépage-là, ça donne une typicité au vignoble. Il y a, c'est oui. Incontestable.
C'est unique.
Ah oui, c'est un cépage super. Mm-hmm. Il a, enfin, si on peut dire un défaut, c'est ce qu'il n'avait pas. C'est pour la raison pour laquelle il n'avait pas été replanté à l'époque, c'est qu'il est peu productif. Mm. Il a des rendements faibles. Mais peu importe, dans la mesure où c'est bon. Oui. Hein, quand on va chercher un côte rôti, on n'a pas des 80 hectares l'hectare. Hein.
Non.
Voilà. Donc c'est... Voilà.
Très bien. Donc ça, c'est un petit peu, un petit peu l'histoire, la vision historique du domaine de la Barthe.
Oui. Alors, entre-temps, bien sûr, bon, on a planté de la vigne, on a pu planter d'abord nos terres, ensuite on a eu la possibilité d'acheter des vignes avec déjà de personnes qui arrêtaient, ou etc. On a pris quelques vignes en fermage qui étaient bien placées géographiquement, et ce qui nous amène aujourd'hui à avoir un vignoble qui fait 70 hectares.
C'est une bonne taille, déjà.
Voilà, avec une... Dans les 68, il y en a une dizaine qui sont en fermage.
Donc la suite, maintenant, de l'exploitation, elle est assurée par les générations...
Alors maintenant, ce sont les générations...
Suivantes.
Jeunes qui s'en occupent. Alors, il y avait, au niveau de la culture de la vigne... on s'était aperçu il y a une trentaine d'années qu'on avait des problèmes d'érosion. Et ces problèmes d'érosion, j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne à un salon à Paris qui tenait un stand de culture raisonnée. Je peux la citer. C'était Madame Christiane Lambert, l'actuelle présidente de la Fédération des exploitants, qui m'avait dit, pour éviter l'érosion, on n'avait qu'une solution, c'est de semer de l'herbe dans la vigne. On avait passé notre vie à essayer d'éradiquer l'herbe, là on me demandait d'en semer, mais pourquoi pas? Et on a essayé, dans les coteaux, on a replanté, on a ressemé de l'herbe. Et la vigne s'est très bien comportée, les problèmes d'érosion ont été résolus définitivement, et on s'est aperçu qu'il y avait un effet secondaire très intéressant. On avait moins de problèmes de pourriture qu'avant sur ces vignes-là. Quand je dis moins, c'est pratiquement, il n'y avait plus de pourriture grise au moment des vendanges. Et on en a conclu que c'était parce que l'herbe faisait une concurrence, les racines étaient descendues plus bas, les racines de la vigne étaient plus basses, donc quand il pleuvait, c'était l'herbe en premier qui absorbait l'eau, et la vigne, le raisin n'avait cette eau que très progressivement, ce qui évitait de faire éclater les grains.
C'est un peu un goutte à goutte, un peu, quoi.
Voilà, et on n'avait pas, donc, c'était beaucoup plus régulier, on n'avait pas l'éclatement des baies, et donc on n'avait pas ces problèmes de pourriture.
Juste un petit mot, quand on dit planter de l'herbe, ça veut dire...
Semer
de l'herbe, ça veut dire quelle herbe
on sème? Alors, on a fait plusieurs essais. Au début, on a commencé... On a semé des rails gras et du trèfle blanc, parce que ça apportait de l'azote au sol. Et bon, on a évolué de plus. Actuellement, on sème des fèveroles.
Des quoi?
Des fèveroles. Ce sont des petites fèves.
Oui.
Et donc,
comestibles ça... Comestibles?
Mais, comestibles, elles sont comestibles si on veut, mais oui. Là, on ne s'en occupe pas de ça.
Oui.
Nous, on sème des fèveroles. Ça a plusieurs avantages, ça apporte beaucoup d'azote, c'est une racine qui va bien travailler dans le sol, il y a une végétation assez importante en surface, ça monte à 80 cm de haut, et quand c'est bien en fleurs et tout, on le broie et on le mélange au sol, ce qui fait un apport, une fumure très intéressante. Voilà.
C'est les prémices, monsieur Albert. Dites-moi, c'est les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture bio.
Oui, alors on était parti en culture raisonnée, donc pendant une vingtaine d'années. Et mais je continue pour l'herbe parce qu'il y a une chose qui est intéressante, et après on reviendra au bio. La personne qui me vendait les semences d'herbe un jour me dit qu'il faudrait qu'on essaie sur les plateaux. À savoir que les plateaux, c'est, comme je dis quelquefois, il y a un petit peu de terre parmi les cailloux. Et ça m'ennuie un peu parce que je dis cette concurrence, la vigne ne va pas la supporter. Mais il y avait une vigne qui était en train de crever parce qu'elle était toute jaune, malade, etc. Et on a fait un essai là-dessus. la première année où on a mis de l'herbe dans cette vigne, on a ressenti un frémissement, il y avait quelque chose qui changeait. On ne l'a pas arraché, 30 ans après, elle y est encore.
Donc l'herbe est arrivée à pousser dans le, sur le caillou, quoi.
Et bien, l'herbe a poussé dans le caillou, alors on a mis de l'herbe qui a apporté, bien sûr, de l'azote.
Oui.
Mais en plus, je pense que c'est le fait de ne plus mettre de désherbant chimique qui a permis à la vigne de repartir comme il faut.
Donc il y a eu deux choses, finalement. Il y a eu planter, semer de l'herbe et arrêter le désherbant.
Voilà, et bien, de toute façon...
Ça ne peut pas se faire en même temps.
Les deux ne sont pas compatibles.
Voilà.
C'est ou l'un ou l'autre. Et alors, donc, il y a maintenant une douzaine d'années, mon fils m'a dit, mais je vais essayer de passer en bio. Le bio avait une image plus ou moins bonne parce que, bon, à l'époque, on voyait des vignes qui n'étaient pas en très bon état, qui étaient en bio. Je lui ai dit, pourquoi pas, à condition que les vignes restent des vignes correctes. Il m'a dit, t'en fais pas, il n'y a pas de souci. Donc, on est passé en bio. C'est vrai qu'on était, presque en bio, puisque on avait semé de l'herbe, on n'employait pas de désherbant, donc... La transition était facile. En fait, qu'est-ce que c'est le bio? C'est ce qu'on faisait quand j'étais jeune, avant de sombrer dans la chimie à tout vent. On n'employait pratiquement pas d'engrais, on mettait de la fumure organique et on n'employait pas de pesticides. On traitait avec les bouillies bordelaises et le soufre, on pensait tout. On est revenu à ça. Pas d'engrais chimiques. Pas de pesticides, pas de désherbants, donc on est passé en bio sans aucun problème. Et la vigne se comporte, je pense qu'elle se comporte mieux qu'avant.
Mieux qu'avant.
Voilà. Ouais. Il n'y a eu aucune incidence au niveau de la récolte. Bon, on ne cherche pas à faire des volumes extraordinaires, puisqu'on veut faire de la qualité. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La vigne se comporte très bien. Voilà.
Donc le passage en bio s'est fait de façon assez naturelle.
Elle s'est fait de façon tout à fait naturelle, sans souci.
Il n'y a pas eu besoin de reposer la terre pendant un certain nombre d'années comme on impose aujourd'hui.
La transition s'est faite d'une façon tout à fait normale. Et
tout ça grâce à la culture raisonnée.
Grâce à la culture raisonnée qu'on avait. On avait déjà semé de l'herbe dans la vigne, donc il n'y avait pas le désherbant, il n'y avait pas tout ça. Donc la vigne se comporte très très bien en bio, il n'y a pas de souci.
Et la qualité du vin n'a pas été modifiée par retour au...
La qualité du vin n'a pas été modifiée. Il n'y a pas de raison que ça modifie la qualité du vin. La seule chose, c'est que, là aussi, c'était, je sais, une personne un jour qui me disait « Oui, mais votre vin bio, il a les mêmes goûts qu'avant, il n'y a aucun changement ni rien. » Je lui ai dit « Écoutez, ce n'est pas compliqué. » Si dans le vin, je vous mets quelques milligrammes de strychnine, demain vous serez peut-être mort. Mais au goût, vous n'aurez pas trouvé la différence. Et la seule différence qu'il y a, c'est que dans nos vins, ben, il n'y a pas du désherbant et il n'y a pas de produits systémiques. Quand on traite la vigne avec des produits systémiques, ça rentre dans la plante, dans la sève, ça va dans le raisin. Donc si ça va dans le raisin, vous l'avez dans le vin et après dans l'estomac. Donc vous n'avez pas ce problème-là.
Je crois que ce que vous venez d'expliquer, Monsieur Albert, c'est pour moi c'est une grosse découverte. C'est qu'en fait, le retour à des choses simples, qui, ben, dans le contexte actuel par rapport à la protection de l'environnement,
oui.
Eh bien, vous êtes en train de démontrer que c'est tout à fait possible et il faut simplement, justement, à un certain moment, oser pouvoir prendre un certain nombre de risques, ce que vous avez su faire. Et justement, ça m'amène à parler un peu en 2021, 2022 bientôt, quel œil et quel jugement vous portez par rapport à ce que vous avez réussi à créer, ce que vous avez réussi à stabiliser et ce que vous avez réussi surtout à faire justement la renommée de votre domaine.
Oui, ben, moi si vous voulez, bon, Quand mon fils est rentré sur l'exploitation, je lui ai transmis l'exploitation, donc pour qu'il ait les mains libres pour faire ce qu'il voulait, il n'y avait pas de problème. Et c'est une tradition de la famille, hein. Mon grand-père l'avait fait, mon père l'avait fait avec moi, et lui il l'a fait maintenant avec son fils, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Si on veut qu'une exploitation continue, il faut que les jeunes aient les mains libres pour faire ce qu'ils ont envie de faire.
Mais à la fois aussi de transmission du savoir et du patrimoine.
Une transmission qui se fasse rapidement. Mmh. Voilà. Je déteste le patriarcat. Voilà, ça n'amène rien. Au contraire, les gens qui ont voulu rester les patrons jusqu'au bout, bien souvent, la propriété a disparu. Voilà.
C'est une belle histoire.
Oui, c'est une belle histoire.
Ouais.
Monsieur Albert, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres par rapport à ce que vous produisez en quantité, en différence de produits,
et en distribution aussi.
Oui, et surtout en distribution.
Oui, maintenant, la propriété fait 68 hectares de vignes, donc il y a 40% de 40% de blanc, 60% de rouge, je crois, actuellement, à peu près. Donc toute la production se vend en bouteille, en appellation contrôlée en bouteille. Donc je pense que pour le moment tout va très bien. Alors il y a eu dans la vigne, il faut savoir que...
En volume, ça fait combien de bouteilles?
Bon, je crois qu'on est à 350 000 bouteilles à peu près, je crois. Alors il faut savoir que la culture de la vigne, c'est quand même... une culture qui est tributaire de la météo.
Que l'année n'a pas été très bonne.
Et cette année, ben, l'année dernière, on a eu un gel important et donc on a perdu 50% de la récolte. Donc c'est quand même important. Heureusement, je n'ose pas trop employer ce terme, mais je pense que la Covid nous a permis de faire des stocks, puisqu'on n'a pas pu vendre
bien sûr.
Comme on aurait vendu. Donc je pense que les stocks qu'il y a, plus la petite récolte, ça devrait se lisser à peu près bien. Voilà. Alors il faut espérer qu'il n'y aura pas un autre pépin...
Oui, à ce sujet, est-ce que vous pensez que l'évolution climatique est une évolution qui va aller dans le mauvais sens, si je te dis, hein? Vous ne l'avez pas encore ressenti?
Peut-être oui, mais il faut savoir quand même, hein, c'est possible, hein, qu'on ait détraqué pas mal de choses, c'est pas impossible. Mais il faut savoir quand même que si on regarde... des années en arrière et très loin, on s'aperçoit qu'il y a eu des périodes où il y a eu des sécheresses terribles, où il y a eu, bon, il y a eu des excès au niveau météo à d'autres époques. Alors, je ne veux pas dire par là que, qu'on ne soit pas responsable un petit peu de l'évolution du climat actuellement. Mais bon...
Il faut rester prudent.
Hein?
Il faut rester prudent.
Mais il faut rester prudent. Alors, c'est sûr que si on revient à des cultures plus traditionnelles, on va aller dans le bon sens. Mmh. Voilà. Mais ce n'est pas uniquement l'agriculture qui va transformer le climat.
Bien sûr.
Et parce que c'est pas... même si elle contribue un peu quelquefois à créer des problèmes, elle est de loin, elle n'est pas la seule à en créer des problèmes.
Responsable.
Elle n'est pas la seule responsable.
Et pour parler un petit peu quantitativement, 350 000 bouteilles par an, et vous les vendez où ces bouteilles?
Alors on les vend beaucoup directement ici au cadre de dégustation, et après l'autre partie se fait... entre la restauration et les cavistes. On a très peu d'exportations. On avait joué un petit peu cette carte-là à une époque, mais il se trouve que on manquerait plutôt de produits, donc à l'exportation, on ne fait que sur, si on nous le demande. On ne recherche plus la vente à l'exportation. On vend surtout au niveau français sans problème. Voilà.
Monsieur Albert, peut-être pour cette dernière partie de notre entretien, il y a deux questions, ou tout au moins un sujet que j'aimerais bien aborder avec vous. Le premier concerne la santé. Vous avez parlé déjà à travers la manière dont vous produisez votre vin, de toute, je dirais, cette pratique maintenant ancrée dans le respect de la nature, dans le respect de tout ce qui confère au sujet actuel qui concerne l'environnement. Mais sur le plan de la santé, il y a un débat par rapport à est-ce que le vin, c'est bon pour la santé ? Ou est-ce que le vin eh bien, peut être un facteur dégradant justement par rapport à la santé ? Alors le sage que vous êtes, et je dirais l'historien que vous êtes de votre propre domaine, mais dans ce domaine du vin, qu'en pense-t-il ?
Mais je pense qu'une consommation normale et régulière du vin ne peut faire que du bien.
Il prêche pour sa paroisse.
Non, je pense que c'est vrai. Alors, le vin est une boisson qui date depuis des temps immémoriaux.
Et puis on dit « in vino veritas ».«
In vino veritas », oui. Donc, quand j'étais en sixième, on avait du vin sur la table.
Au réfectoire.
Au réfectoire. Aujourd'hui, ce serait un scandale. Voilà. On avait du vin au réfectoire. Je ne me suis jamais aperçu qu'il y ait des abus. Il n'était peut-être pas très bon. Mais bon, je ne me suis jamais aperçu qu'il y ait des abus. Je pense qu'au niveau de la santé, alors on buvait un peu de vin, on allongeait avec de l'eau. C'était pas forcément un crime quand on avait 10 ou 11 ans. Et ça nous évitait de boire toutes ces boissons qu'on prétend hygiéniques, qui sont les sodas.
Coca-Cola.
Pour ne pas le nommer. Et voilà. Donc je pense que si on regarde un petit peu tous les dégâts que font ces boissons, surtout aux États-Unis, mais ce qui s'est fait aux États-Unis, avec un peu de recul, ça arrive chez nous. Donc, au point de vue diabète, obésité, etc., chez les tout jeunes, c'est fou, un truc comme ça. Je ne pense pas que le vin, bu raisonnablement, arrive à ces problèmes-là. Il y a pas mal de docteurs qui prétendent que le vin fait du bien. Je sais qu'il y en a certains qui sont peut-être soumis à des lobbies pour essayer de leur faire dire le contraire. J'ai bu du vin toute ma vie.
Et tu continues à en boire.
Je continue d'en boire régulièrement. Je n'ai jamais eu des problèmes d'alcool. Ma mère buvait du vin même quand elle m'attendait. Bon, ça a peut-être eu des effets nocifs, mais je n'en suis pas trop aperçu.
Je confirme que j'ai en face de moi un homme...
qui a beau le fond.
Voilà.
Voilà. Alors, bon, il ne faut pas... je crois qu'il faut être un petit peu raisonnable à ce niveau-là. Donc, il faut boire du bon vin. Si vous lui buvez... Alors, c'est sûr que les vins où il y a beaucoup de produits chimiques dedans... c'est pas le vin qui va vous faire mal, mais c'est les produits chimiques qu'ils contiennent. Donc, il faut de préférence boire des vins bio, des vins qui soient corrects à ce niveau-là. Il faut se méfier de certains vins qu'on prétend faits d'une façon écologique, etc. Mais c'est du trompe-l'œil, c'est pas vrai. Et il y a eu une enquête. C'est des vins de Bordeaux qui étaient faits, je ne me rappelle plus le terme. On s'est aperçu qu'ils contenaient des produits...
comme les autres.
Comme les autres, mais parce que, le fait de les employer raisonnablement, ça veut dire que il faut l'écrire sur un cahier au fur et à mesure qu'on les met, mais ça n'empêche pas de les mettre dans le produit. Donc, vous les avez ensuite dans l'estomac de la même façon. Donc, il faut éviter de mettre ces produits-là. Je pense que dans les produits bio, s'ils sont faits correctement, il n'y a pas ces problèmes-là, c'est tout.
Et le vin sans sulfite ?
Alors, le vin sans sulfite, on peut, mais il faut savoir que le jus de raisin, son cheminement, c'est de faire du vin et ça finit au vinaigre. Le vinaigre, c'est la fin du processus de la fermentation. Voilà.
L'aboutissement.
Donc, il faut s'arranger de s'arrêter un peu avant et de rester en vin. Alors, il y a des essais qui sont intéressants. J'ai goûté des vins sans sulfite qui sont très bien. J'en ai goûté d'autres qui avaient évolué, comme on dit. Donc, il faut faire attention. Alors là, par contre, le soufre, il faut l'employer d'une façon très professionnelle. Il faut l'employer très peu et le mettre juste quand c'est le moment. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre sur l'utilisation du soufre. On peut faire avec, dans le vin, il y a très peu de soufre. Il faut demander à mon fils les doses, mais vous verriez que c'est très... Voilà. Je ne pense pas que ce soit plus nocif qu'autre chose. Je ne dis pas... Si un jour on trouve un système pour l'empêcher, bravo. Mais, jusqu'à maintenant, c'est quand même beaucoup plus difficile. Alors, on a un emploi énormément moins qu'autrefois. Hein. Je crois que les doses, autrefois, on arrivait à 450 mg par litre. On est plutôt à 40-50 pour le moment.
10 fois moins.
10 fois moins. Voilà.
Monsieur Albert, on arrive au terme de ce très bel échange. Et on a appris beaucoup de choses, hein, n'est-ce pas, Pierre ?
Oui.
Le domaine de la Barthe, c'est votre vie, la vie de vos ancêtres, la vie de vos descendants, la recette, au final, pour que ça soit une si belle réussite.
Mais si belle réussite, c'est que, bon, il faut y croire, d'une part. Et il faut travailler et travailler correctement, voilà. Je pense que tout est là. Il faut pas tricher. Voilà. Il faut faire de bons produits. Et il faut que les gens aient envie de venir et de revenir surtout. Donc il faut que l'accueil soit correct, que l'environnement soit correct. Il faut qu'il n'y ait pas de tout qui traîne partout, que ce soit
entretenu,
que les gens aient envie de revenir. Et je pense que c'est tout énorme.
Bien,
je peux dire un petit mot à ce sujet personnel, quoi, puisque je connais la famille Albert depuis très longtemps. Puisque j'ai même connu ton père. Hein.
Oui, et moi, voilà. Et moi j'ai connu le vôtre aussi, bien
voilà,
sûr.
Bien sûr, et ma mère. Hein. Et donc, tout au long de ces années, moi, ce qui m'a frappé, c'est la façon dont vous avez su faire évoluer globalement le domaine. Il parlait tout à l'heure de l'accueil. Les bâtiments actuels n'ont rien à voir avec les bâtiments qu'avait mis en place la famille avant toi.
Ça s'est fait petit à petit.
Ça s'est fait petit à petit, et ça s'est fait dans le bon sens. Dans l'accueil, la convivialité, le plaisir de venir, quoi, dans quelque chose qui a évolué vraiment de façon très agréable.
Il faut être disponible avec les gens, il faut que, bon, c'est normal.
En tous les cas, merci, monsieur Albert, encore une fois, et pour votre accueil, mais surtout pour tous ces bons mots et toute cette belle histoire que vous nous avez richement racontée. J'ai pris beaucoup de plaisir, Pierre, à découvrir et le personnage et le patron. Et je dirais...
Mais si tu n'as pas tout découvert encore, puisque juste à côté, tu pourras découvrir ces talents de peintre et de photographe.
Ben, on donnera l'envie à nos auditeurs de venir découvrir votre domaine, monsieur Albert.
Et le musée.
Voilà, et voilà. On vous souhaite surtout une très belle continuation et puis une belle réussite pour les récoltes à venir.
Et je vous remercie beaucoup.
Donc, merci à Jean-Albert pardon, de nous avoir reçus au domaine. Merci pour son histoire, merci pour sa passion. C'est magnifique. Donc, on arrive au terme de cette émission numéro 1. Le temps pour moi de vous présenter l'émission numéro 2, en lien direct avec celle-ci, puisqu'après la notion de cépage, on va vous présenter la notion de porte-greffe. Ils sont tous américains. La partie aérienne de tous les ceps de vigne que vous voyez dans l'Hexagone et même dans la vieille Europe sont bien issus de sélection et de croisements européens issus de la famille Vitis vinifera. Donc la partie aérienne des vignes nous appartient, la partie souterraine est systématiquement américaine. On vous expliquera ça dans une prochaine émission, comment les Américains nous ont sauvés en nous ramenant aussi toutes les maladies actuelles. Voilà le débat. Merci à tous, Jean-Luc. Je te donne le micro.
Oui, puisque comme on vous l'a bien fait comprendre, c'est une première et cette émission, j'espère qu'elle pourra perdurer et surtout qu'elle vous plaira. Et donc, pour fêter cette première, et donc en termes de baptême, nous allons ouvrir en direct une bouteille de Prunella. Du domaine de la Barthe 2012 et nous allons un peu vous en parler donc voilà c'est fait et maintenant il ne reste plus qu'à servir les quelques verres ici disponibles.
Voilà messieurs, là on est dans
voilà, merci Sébastien,
toujours dans la technique hein, c'est important
de bien le servir.
De bien le servir.
Donc, une fois que tout le monde sera servi, on va vous parler un petit peu de ce vin en termes d'experts. Et j'espère que vous en pourrez en retirer tous ces arômes et tout ce qui va avec. Sébastien.
Merci Jean-Luc. Donc, c'est vrai que sur l'appellation Gaillac, nombre de vins sont dans cette appellation. Hein, on peut trouver, je crois, toutes les catégories de vins, de la première bulle jusqu'au vin liquoreux, en passant par les rosés, les blancs secs, les rouges. Quand on parle cépage gaillacois, on pense de suite au brocol, au loin de l'œil. Là, on a la chance, grâce à Jean-Albert, de redécouvrir un cépage qui s'appelle le Prunelard. Voilà, l'idée, on parlait de mode tout à l'heure, peut-être que celle d'aujourd'hui nous ramène un petit peu en arrière sur des cépages peu productifs, très concentrés, qui ne répondent plus aux critères agronomiques productifs, mais qui ont de grands potentiels œnologiques. Donc, pour vous le décrire rapidement, on est sur déjà à l'œil sur une intensité rouge sombre.
Oui, une robe très très sombre, hein.
On ne voit pas le pied du verre. Voilà.
Ouais,
ça, c'est un critère simple
à
donner. Donc, on n'est pas sur des rouges intenses, on est sur la couleur noire.
Ouais, ouais.
Les reflets sont relativement violacés. Donc, un vin qui est encore sur sa jeunesse, même si le millésime indiqué, c'est un 2012.
Oui, mais c'est un vin qu'on peut garder jusqu'à 10 ans. Hein.
Voilà. On revient sur cette notion de cépages anciens qui sont concentrés, sur lesquels le temps glisse un petit peu. Qu'est-ce qui se passe au nez? Voyons voir. Alors, il a besoin d'air un petit peu, c'est un petit peu fermé, c'est en train de s'ouvrir. Donc, il y a une intensité aromatique soutenue, il y a du nez.
Je confirme.
Vous confirmez, messieurs?
Il y a un nez très fort, hein.
Il y a un nez très fort. Donc, on va parler d'intensité soutenue. Mmh. Et moi, ce qui me vient, c'est de suite des fruits rouges, en fait. Hein, des fruits rouges légèrement surmaturés. On a la mûre. Qu'est-ce que vous percevez, messieurs?
Le pruneau.
Voilà. Donc, ça, c'est des notes aussi peut-être
fortes
et peut-être un peu d'évolution. C'est un 2012 quand même. Mmh. Il y a des épices aussi. Il n'y a pas que la famille fruitée. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu un passage en barrique là-dessus? Est-ce que vous avez une info?
Oui.
Ouais.
Oui.
D'accord. Ben, le bois est très bien intégré. En tout cas, on ne perçoit pas ces notes boisées.
C'est vrai, oui. C'est assez surprenant d'ailleurs.
Ouais, c'est très fondu. On a des notes fruitées, des notes épicées qui se mélangent très bien.
Un peu de réglisse. Hein.
Un peu de réglisse, tout à fait.
Ouais.
Moi, j'ai un côté un peu mentholé aussi, quelque chose de frais. Ouais, ouais. Il y a à la fois ces fruits rouges assez confiturés, assez chauds, et qui contrastent avec un côté épicé plutôt sur la fraîcheur. On n'est pas sur un vin lourd cuit au soleil, on sent qu'il y a la maturité du raisin, mais il y a aussi beaucoup de fraîcheur qui lui redonne cette
épicé. Sébastien, je te vois bien remué avec... une certaine agilité, le vin autour du verre.
Une dextérité.
Et on voit des
jambes.
Voilà. Et comment...
Oui, des jambes,
quel enseignement
des
on peut en tirer?
Alors, ça, c'est assez difficile à dire. Les jambes, les larmes, hein, on peut les appeler de différentes façons. Ça, c'est... Souvent, on en observe un peu plus sur des vins qui ont relativement quelques années, déjà. On parle de glycérol, en fait. Hein. On parle de glycérol, ouais. Donc, je ne sais pas si ça va donner énormément d'indications sur ce à quoi on peut s'attendre au nez ou en bouche. C'est souvent synonyme d'un vin...
Degré d'alcool.
Voilà, il y a un petit peu d'alcool, il y a une certaine concentration, en tout cas. Hein, un niveau de maturité des raisins. Donc, moi, je le manipule, comme dit Jean-Luc. L'idée, c'est de l'aérer. La bouteille est un milieu réducteur, ce vin rouge. Donc, on a dit qu'il était d'une certaine concentration. Il est enfermé dans cette bouteille depuis 10 ans, hein, puisque c'est un 2012. Donc, il faut lui donner de l'air maintenant. Il faut le laisser respirer. C'est cet apport d'oxygène qui va libérer un petit peu toute sa concentration aromatique. Et au fil de l'oxygène, On va le découvrir, il va s'aérer, c'est pour ça qu'on carafe les vins. Dans la grande famille des vins du Sud-Ouest, on a souvent des vins qui ont besoin d'oxygène, qui ont besoin de respirer un petit peu. Voilà pourquoi on joue un petit peu avec. Mais maintenant, je pense qu'il est grand temps de...
Le moment attendu par tous les éditeurs.
De le goûter. C'est pas facile, hein, la dégustation
radiophonique. Alors, en bouche, maintenant.
Alors, en bouche, ben, on a une entrée de bouche qui est ample. On a quelque chose de visqueux, d'épais. On a un premier toucher en bouche qui est onctueux, je dirais. Après quoi, de suite, il y a l'acidité qui commence à apparaître, la masse tannique qui commence à arriver et qui vont monter crescendo, jusqu'à la finale. Où on a une sensation tannique assez importante.
Assez forte. Hein.
Assez forte, tout à fait. Mais des tannins très ronds, en fait. On n'a pas de sensation asséchante qui dure. L'astringence arrive en fin de bouche, et puis on retrouve assez vite sa salive. On a cette sensation tannique, mais très agréable. On sent que l'extraction des tannins est maîtrisée. On sent que les tannins, que le raisin, en tout cas, était bien mûr. Voilà, l'idée de décrire très sincèrement ce vin à la radio...
Eh bien, c'est une première, hein.
C'est de vous glisser, en fait, juste une introduction à une méthodologie de dégustation. Voilà.
Voilà, mais c'était une première, Pierre, une première, oui. Sébastien, en direct, de pouvoir avoir une approche dégustative de ce Prunella du domaine de la Barthe, Prunella 2012. Et j'espère que ça vous aura donné envie. Et donc, on va trinquer à cette première émission en espérant vous retrouver
bientôt.
Voilà, très bientôt donc, pour À la bonne vôtre.
À la bonne vôtre.
À la bonne vôtre.
À la bonne vôtre.
Ça reste à l'appréciation de...